Dire que Dieu existe sans dire ce qu'est Dieu et comment il est équivaut à ne rien dire. Miguel de Unamuno.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Miguel de Unamuno est sans doute un des esprits les plus brillants et les plus représentatifs de la deuxième moitié du XIXe siècle et du premier tiers du XXe. Il est né à Bilbao le 29 septembre 1864. Il est à la fois philosophe, spécialiste de lettres classiques, mais il touche également à l'écriture de romans, à l'écriture de théâtre. Il s'est fait connaître par des livres importants, en particulier « L'essence de l'Espagne » en 1895, « Le sentiment tragique de la vie » en 1913 et « L'agonie du christianisme » en 1925. Il fait partie de ce que l'on appelle, dans l'histoire de l'Espagne contemporaine, la génération 1898. Cette année-là, l'Espagne perdait ses dernières possessions aux Philippines et à Cuba, et nombre d'intellectuels, dont Miguel de Unamuno, se sont posé la question de l'avenir de l'Espagne et de la question de la décadence et de la crise politique, morale que traversait le pays. Cet homme, je le disais en introduction, est un intellectuel. Il est spécialiste en particulier de Pascal, qu'il médite souvent. Il s'intéresse aussi à Nietzsche, à Kierkegaard, le philosophe danois, et il va même jusqu'à apprendre le danois pour pouvoir lire Kierkegaard dans le texte. Il adore également les ouvrages de Dostoïevski. Nous avons donc un personnage éminemment humaniste et intellectuel. Sur le plan religieux, il est chrétien, profondément chrétien. Pour lui, le christianisme, c'est avant tout deux noms, deux mots. L'incarnation, Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus, et ensuite la résurrection, c'est-à-dire que Jésus a traversé la mort et est ressuscité le dimanche de Pâques. Incarnation, résurrection sont donc les deux piliers de la foi de Miguel de Unamuno. Sur le plan politique, il est plutôt de tradition républicaine. Ceci d'ailleurs lui vaut quelques soucis parce que, alors qu'il est devenu en 1900, à l'âge de 36 ans, recteur de l'université de Salamanque, où il enseigne le grec ancien, il est destitué de son poste en 1914. Au moment de la dictature du général Primo de Rivera, il va se réfugier à Paris, où il vit en 1924-1925, revenant en Espagne à la fin des années 1920. En 1931, il retrouve son poste de recteur de la prestigieuse université de Salamanque. Il est élu député aux Cortes sur la liste de républicains libéraux et donc il participe quelque peu à la vie publique. Mais il est indéniable que Miguel de Unamuno s'inquiète de certaines dérives de la République espagnole. Il s'inquiète d'abord de la progression de l'anarchisme. Il redoute que cette formule politique qui est forte en Andalousie, en Aragon, quelque peu en Catalogne également, eh bien, ne pourrisse quelque peu la République et que les libertés finalement disparaissent au profit d'un collectivisme qui installerait une dictature en Espagne. De même, il se méfie du communisme. Le Parti communiste espagnol est relativement peu important avant la guerre civile qui éclate en juillet 1936, mais son positionnement stalinien inquiète Miguel de Unamuno. Ce qui fait que finalement le personnage reçoit la nouvelle du soulèvement nationaliste du 18 juillet 1936 avec plutôt bienveillance. Effectivement, il estime que peut-être il faut nettoyer la République, il faut la rendre plus pure, et il croit que les nationalistes, derrière le général Franco, vont le faire. Ce qui fait qu'au tout début de la guerre civile, Miguel de Unamuno soutient plutôt le soulèvement nationaliste. Mais il va s'apercevoir assez rapidement que, en fait, derrière le pronunciamento militaire du général Franco et de ses acolytes, il y a une répression de plus en plus sévère. Il y a des libertés qui sont de plus en plus contrôlées. Et la répression franquiste qui s'abat sur les zones contrôlées par les nationalistes l'inquiète énormément. Ce qui fait que Miguel de Unamuno va indéniablement connaître une évolution de plus en plus méfiante et hostile à l'égard du camp franquiste. Le moment de la rupture se situe le 12 octobre 1936. Il est donc, depuis 5 ans, à nouveau recteur de l'université de Salamanque, et il doit y avoir, en ce 12 octobre 1936, jour de la fête de la Vierge du Pilar, patronne de l'Espagne, un grand rassemblement dans le grand amphithéâtre L'Aula Magna de l'université de Salamanque, en présence de Doña Carmen Polo de Franco, l'épouse du général, qui est assise au premier rang. Mais dans l'immense salle qui est bondée, se trouvent des généraux, des officiers, des phalangistes, des carlistes, des ambassadeurs et des ministres qui se pressent et se bousculent dans une atmosphère indéniablement d'exaltation hystérique. Et donc, il est question de parler de l'Espagne, de son avenir. Un des collègues de Miguel de Unamuno prend la parole et critique énormément les velléités autonomistes des Basques et des Catalans. Puis l'évêque prend la parole et se lance dans une défense sans mesure de la croisade qui est en train de mener le camp nationaliste. Puis c'est le tour du général Milan Astray, le commandant de la Légion espagnole. Il monte à la tribune, l'excitation est à son comble. Ancien combattant, Milan Astray est borgne, amputé d'un bras et d'une jambe. Il est indéniablement un homme d'une grande bavure, que certains qualifient d'insensé, et il se lance dans un discours extrêmement violent, féroce, s'en prenant à ceux qui ne sont pas dans le camp nationaliste, glorifie l'unité indivisible de la nation espagnole, dénonce les Basques, les Catalans, qu'il insulte avec une bassesse assez répugnante. N'oublions pas que Miguel de Unamuno est né à Bilbao et qu'il est donc basque. Il éructe des menaces, il brandit son unique bras et ses vociférations sont suivies d'applaudissements frénétiques qui saluent son discours. Debout, les jeunes phalangistes scandent le bras levé « España una, España grande, España libre ». Très pâle, la figure crispée, Unamuno écoute sans rien laisser paraître de ses sentiments. Puis, il va prendre la parole. C'est un homme de 72 ans, malade, qui ressemble, dit-on, à un vieil hibou. Il se lève avec peine, attend que les clameurs se taisent, et derrière le verre épais de ses lunettes, il regarde cette foule et prend la parole. Voici ce qu'il dit. Vous attendez tous ce que je vais dire. Vous me connaissez et savez que je ne peux garder le silence. Il y a des circonstances où se taire est mentir, car le silence peut être interprété comme une approbation. Je voudrais ajouter quelque chose au discours, si on peut l'appeler ainsi, du général Milan Astray, présent parmi nous. Ne parlons pas de l'affront personnel qu'il m'a fait, sa violente vitupération contre les Basques et les Catalans. Je suis moi-même né à Bilbao. L'évêque aussi, que cela lui plaise ou non, est catalan, de Barcelone. À ces mots, une espèce de malaise, d'incrédulité se répand dans l'assistance. Carmen Polo Franco, la tête baissée, froisse nerveusement son mouchoir. Le professeur Unamuno s'apprête à reprendre la parole quand Milan Astray se lève et crie « Viva la muerte !»« Vive la mort !» Sur un ton impassible, Unamuno reprend. « Je viens d'entendre un cri morbide, dénué de sens, vive la mort. Et moi, moi qui ai passé ma vie à façonner des paradoxes qui ont soulevé l'irritation de ceux qui ne les saisissent pas, je dois vous dire en ma qualité d'expert que ce paradoxe barbare est pour moi répugnant. Le général Milan Astray est un infirme, disons-le sans arrière-pensée discourtoise. Il est invalide de guerre. Cervantes l'était aussi. Malheureusement, il y a aujourd'hui beaucoup trop d'infirmes. Il y en aura bien encore plus si Dieu ne nous vient pas en aide. Je souffre à la pensée que la psychologie de masse, eh bien, détruise l'Espagne. Cette université est le temple de l'intelligence et je suis son grand prêtre. C'est vous qui profanez son enceinte sacrée. Vous vaincrez parce que vous disposez de la force brutale. Vous ne convaincrez pas car il vous manque la raison. Je considère comme inutile de vous exhorter à penser à l'Espagne. J'ai terminé. Dans un silence pesant, Madame Carmen Polo vient chercher le vieux professeur pour l'aider de descendre de l'estrade. Il a été courageux, héroïque, mais il est indéniable qu'il a rompu définitivement avec le camp franquiste. Il va d'ailleurs survivre très peu de temps à cette épreuve du 12 octobre 1936. Il perd son poste de recteur. Et il meurt le 31 décembre 1936, au moment où l'Espagne s'enfonçait dans la guerre civile.